Nous allons écouter Cécile Navarro sur le Sénégal, avec une communication sur les pratiques circulatoires d'artistes de rap sénégalais et la construction d'une scène musicale locale.
Alors bonjour à tous, je suis très contente que donc, le comité d'organisation m'ait conviée, moi qui suis toujours donc, en train de construire ce projet en cours, ce projet de thèse que je mène depuis 2 ans. Et du coup chaque présentation me donne l'occasion de développer ce projet et aussi de revenir sur mes données et d'essayer de les approfondir. Donc merci beaucoup. Je suis aussi très enthousiasmée et à la fois très intimidée de passer après mes deux confrères qui sont passés avant moi, dont je lis les travaux, dont j'essaye de m'inspirer dans le cadre de ma thèse. Et du coup, cette présentation sera plus... J'ai la chance de passer en dernier, donc c'est aussi l'occasion pour moi de proposer comme une ouverture sur une scène musicale locale qui est la scène rap sénégalaise, que je prends comme objet. Je ne vais pas revenir sur la construction de cette scène ou sur ses caractéristiques qui ont déjà très bien été décrites par Monsieur Niang, notamment, qui est ici dans la salle. Et disons simplement, pour revenir, que cette scène musicale locale prendrait comme référent un territoire national qui serait le Sénégal, ce qui n'est pas exempt de poser des questions sur le processus de construction des identités culturelles et des identités nationales. Et le but de ma thèse, ça serait de voir comment cette scène locale et donc ces constructions qu'elle véhicule est aussi traversée par des circulations, et notamment par la circulation de certains de ces artistes. Et ici, je vous ai mis en illustration de ce questionnement assez large la pochette de l'album de Moulay, donc, qui s'intitule « Des racines ont des ailes », et qui met en questionnement justement son expérience en tant que rappeur sénégalais qui s'installe au Sénégal après de nombreuses années passées en France, notamment pour y faire toute sa scolarité et ses études universitaires, et qui est donc réunit sur la même pochette cette idée d'enclavement avec ses tours et cette idée de circulation, d'envie de voyager et de remettre son expérience migratoire en fait au centre aussi de ses textes, à travers justement l'image de l'avion. Et donc il s'agit de voir comment ce qu'on peut voir comme une apparente contradiction entre la localité, la construction d'une salle qui se veut locale et les circulations qui les traversent, peut être à la fois source de dilemme pour les artistes ou au contraire, comme ici, source de nouvelles créations musicales qui prennent appui sur ces expériences migratoires, comme on l'a vu chez Anna, qui peuvent être à la source de la création de nouveaux lieux et donc de nouvelles opportunités, notamment pour s'exporter, ou aussi de nouveaux possibles pour le local. Donc parmi ces nouveaux possibles, il y a la question de la possibilité de la musique à s'exporter. Et je reviens juste sur une anecdote que je trouve assez drôle du rappeur Booba, qui est venu au Sénégal récemment, et qui aurait déclaré, au comble de la méchanceté, que le rap sénégalais, c'est comme le rap polonais, il n'est pas connu. Et ceci pour répondre au fait qu'il n'ait pas collaboré avec des artistes sénégalais, alors qu'il est lui-même d'origine sénégalaise de par son père. Je m'attarde sur cette phrase par le retentissement récent qu'elle a rencontré au Sénégal et qui se fait l'écho de la susceptibilité des acteurs sur le terrain face à leur manque de reconnaissance internationale et qui m'ont aussi fait part lors de mes premiers terrains là-bas et qui se reflète aussi à travers des chansons qui étaient enregistrées en réponse à cette déclaration ou alors des montages comme celui-ci qui détourne le logo d'un label, celui de 99 Jollof for Life en 99 Poland for Life, suggérant aussi l'expression de solidarité translocale dans cette manque de reconnaissance internationale. C'est aussi l'occasion pour moi de dire que les artistes ont conscience que leur public est d'abord local, ce qui a 2 conséquences. En premier lieu, les rappeurs chantent majoritairement en Wolof, qui est la langue majoritairement parlée au Sénégal, même s'il rappe aussi en anglais et en français, mais de manière minoritaire. Et en deuxième lieu, les artistes et le public partagent aussi implicitement les mêmes croyances musulmanes, dont se font aussi l'écho les chansons. Et la volonté des artistes de s'exporter conduit aussi à des positionnements différents sur la façon dont il faut s'y prendre, et notamment sur les changements à effectuer sur ces deux éléments, à savoir l'usage de la langue, peut-être parler plus en anglais et en français, et aussi sur les contenus des chansons. Donc juste pour introduire un exemple de ce qui pourrait m'intéresser dans ce cadre-là, dans ce questionnement-là, et qui montre aussi que les artistes sont nombreux déjà à produire leur musique à l'étranger, à vivre une partie de l'année dans d'autres pays, ou à voir le rap sénégalais à l'étranger, à travers des conférences et des concerts, comme celui qui aura lieu le 15 avril 2017, donc prochainement à Paris. Et donc, petite dédicace, petite publicité ici. C'est un concert organisé par une entreprise d'événementiel qui va réunir plusieurs artistes qu'ils ont choisis, donc qui sont censés représenter la crème de la crème de la scène, et qui est faite notamment en réponse à la déclaration de Booba. Et sur ce type d'événement, ça me donne l'occasion aussi de me demander quelle sera la présentation de soi de cette scène à l'étranger, quelle est la signification d'un tel événement au Sénégal, ou encore quelle est la logistique et les réseaux qui sont mis en jeu lors de l'organisation d'un tel événement. Voilà un peu pour l'introduction des questions qui m'intéressent. Moi, dans le cadre de cette présentation, je vais parler plutôt d'un groupe en particulier, vu le temps qui est mis à ma disposition. Et notamment à travers un entretien que j'ai effectué avec l'un des membres de ce groupe, Waterflow, que j'ai rencontré à Washington DC en octobre 2015. Pourquoi ce groupe ? D'abord à cause de leur parcours, que j'introduis brièvement ici. Parcours qui est un lexique que j'emprunte à Sarah Le Ménestrel, et qui commence à Thiaroy, une agglomération située à la périphérie de Dakar, donc dans les marginalités de centres économiques, politiques et culturels que représente le centre-ville donc, de Dakar. Et le groupe se revendique d'ailleurs comme l'un des premiers groupes à émerger alors qu'il n'habitait pas le centre-ville, à une époque où le hip-hop, à travers la danse, puis la musique, était d'abord adopté par la jeunesse sénégalaise branchée des quartiers résidentiels. Donc du rattachement de ces groupes à la banlieue, de ce qu'ils appellent donc la banlieue, ces quartiers périphériques de Dakar, émerge aussi une revendication, une nouvelle signification donnée à la musique, en tant que lieu où montrer la précarité, la pauvreté dans lesquelles vit une majorité de la population sénégalaise, des conditions de vie que ces rappeurs disent partagées, car étant des mêmes quartiers, et donc des conditions de vie, une population qui peuvent représenter. C'est un style qu'ils vont définir comme hardcore, inspiré par les influences du rap américain, et qu'ils partagent avec d'autres groupes phares comme moi, BMG 44, que j'ai mis ici à côté. Donc vous avez Wagueu Bleu ici à droite et WABMG à gauche, donc qui même dans la figuration de soi, se montrent dans le quartier, et dont les deux groupes sont originaires de Thiaroy, raison pour laquelle je les ai mis en lien. Pour introduire brièvement les contenus associés à la musique rap au Sénégal et au style hardcore plus précisément, voici une illustration de, par exemple, ce qui peut figurer dans les clips, à savoir ici, par exemple, comment le rappeur Fou Malade gifle un médecin pour critiquer le système de santé, donc qui montre aussi la façon dont se caractérise ce style, à savoir le fait de dire ce que tout le monde pense mais que personne ne se dit, et le faire avec une certaine dureté, avec une certaine provocation. Et le hardcore s'est imposé peu à peu à mesure que les artistes et le public principal de la musique se concentraient dans la banlieue, et la banlieue est devenue le lieu de provenance des rappeurs jugés les plus authentiques, en opposition au centre-ville, dans un retournement de ce qui se passait notamment au début de l'émergence du rap au Sénégal. Donc, il est aussi intéressant de voir comment le style hardcore va aussi peser sur la construction de la musique rap au Sénégal. Comment, au début notamment de l'émergence de ce style, Les partisans d'un son plus mélodique ou traitant de thèmes jugés légers, festifs, comme l'amour ou faire la fête, ont été accusés de ne pas vraiment faire du rap ou de ne pas produire la musique qui corresponde réellement aux réalités sénégalaises. Cette vision est bien sûr en train de changer sous l'influence d'une nouvelle génération de rappeurs qui est sensible notamment aux évolutions de l'industrie musicale mondiale. Mais cette prédominance du hardcore et de cette vision du rap est d'autant plus forte au Sénégal qu'elle se prolonge dans l'engagement des rappeurs dans la vie politique. Et on aura de nombreuses occasions de revenir là-dessus dans le cadre de ce colloque, puisqu'il y a notamment demain une table ronde sur les mobilisations politiques et un documentaire qui sera projeté. Donc parmi ces mouvements, il y a eu par exemple le mouvement Boulefalé dans les années 90, la génération de l'alternance dans les années 2000, ou plus récemment le mouvement Yonamar, voilà, qui a lutté contre la modification constitutionnelle que voulait mettre en place l'ancien président Abdoulaye Wade, qui souhaitait par là se présenter un troisième mandat et qui sera plus montré demain. Donc tous les rappeurs que j'ai interviewés, ce qui est notable, c'est que peu importe le style de musique qu'ils faisaient, finalement, ils s'identifiaient tous à l'idée que le rap sénégalais, s'il fallait le définir, était un rap engagé. Et que le rôle du rappeur était d'être le porte-parole de la population et, comme dans le cas de Wagge Bleu, se définissait comme étant la voix des sans-voix. Donc voilà, c'était juste certains éléments pour vous introduire la scène locale, ces conflits, ces solidarités, ces clivages territoriaux. Et pour poursuivre sur le parcours de Wagge Bleu, la circulation a été permise grâce à leur découverte par un label norvégien, Two Through Entertainment, qui leur a permis d'enregistrer deux albums entre la Norvège et le Sénégal, Rap New Generation en 2002 et Sénégal en 2005, avant que le groupe ne crée son propre label Nubian Spirit et ne sorte l'album Message of Hope en 2012. Entre 2006 et 2012, les membres de Wagge Bleu vont peu à peu se distancer du Sénégal et vont s'installer de manière plus ou moins définitive dans d'autres pays. Waterflow s'installe aux États-Unis, donc à Washington DC, avant tout pour des raisons familiales, tandis que l'autre membre du groupe dont je n'ai pas encore parlé, Eyewitness, s'installe à Lausanne, donc là où j'habite, en Suisse. Donc 2012 et cet achèvement, disons, de l'expérience migratoire au niveau musical, c'est aussi donc la fondation de leur propre studio qui a été permise notamment par la poursuite d'activités professionnelles en dehors du cadre musical, des activités professionnelles dont ils ont investi les bénéfices pour pouvoir faire de la musique et qui induit des modifications, bien sûr, dans les conditions dans lesquelles ils créent leur musique. Donc voilà des photos des nouveaux studios, des home studios qu'ils ont fait chez eux, à la fois à Washington DC et à Lausanne. Le parcours de Wagge Bleu, tel que je vous l'ai décrit ici rapidement, a été résumé par Waterflow comme une ascension qui les mène des endroits les plus pauvres à l'endroit où ils sont maintenant. Donc il me dit: on a sorti un album qui s'appelle Message of Hope parce que nous, on est le message d'espoir, parce qu'on a commencé ça de rien, des endroits les plus pauvres. L'expérience migratoire ici, tout comme le parcours musical, en fait, en parallèle, sont présentées comme une réussite, un exemple. Donc la migration et la musique sont intimement liées dans la façon dont ils conçoivent leur propre parcours. Et cette idée, je l'ai aussi retrouvée chez un autre pionnier du rap sénégalais, Maxi Crazy, que j'ai interviewé à New York, et qui me parlait en parlant de... qui me disait, disons, quand je lui demandais de me décrire son parcours, non seulement son parcours, mais aussi le chemin rencontré par le rap sénégalais et le rap dans son ensemble, il me parlera d'un chemin qui va des cars rapides, donc un mode de transport typiquement sénégalais, à l'avion en première classe. Donc une description de l'évolution d'une musique par une évolution dans les moyens de transport utilisés. Cette mise en lien, c'est aussi une filiation donc, entre l'expérience migratoire telle qu'elle est racontée et le mythe du rappeur américain qui s'exprime de son milieu social par la musique et notamment à travers l'entrepreneuriat. Celle-ci se donne à voir par l'utilisation chez Waterflow, comme ici dans cet extrait, du terme de ghetto, un référentiel spatial important que Waterflow utilisera de nombreuses reprises pour parler de l'endroit dont il est issu et pour la comparer notamment à l'expérience rencontrée par les Afro-Américains aux États-Unis. Donc, pour vous lire cette citation rapidement, donc il me parle par exemple de Eric Simons ou de Das EFX, qu'il voyait comme des dieux, en se disant « il n'y a pas que les Africains qui sont pauvres, il y a des gens, ils sont comme nous, mais ils sont dans d'autres continents et ils se développent eux-mêmes, donc implicitement grâce au hip-hop. Ils essayent de créer quelque chose de rien et puis en faire quelque chose de tellement grand que c'est venu dans notre petit ghetto. Donc moi, juste là, maintenant, je les vois avec beaucoup d'honneur et de respect, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils se sont développés avec tous les problèmes qui existent aux États-Unis. Dans le ghetto, il y a la violence, il y a les problèmes, mais ils sont arrivés à faire quelque chose. » Donc ici, Waterflow reconstitue un espace universel dont les barrières sont mises à bas par la force justement de cette chose, du mouvement hip-hop, qu'il ne note pas, mais qui permet de se développer, alors développer selon ses mots. Cette idée est en quelque sorte transvasée dans sa vision du monde en tant que monde sans frontières, où lui, personnellement, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne, a la liberté et acquis la capacité de se mouvoir. Et il me dira, la vie, c'est pas un endroit. Si on dit la musique n'a pas de frontières, les musiciens, ils n'ont pas de frontières en fait. Mon origine, c'est dans mon DNA, dans mon ADN. Tu vois, ça ne détermine pas là où je vais vivre toute ma vie. Et il me répondait cela alors que je lui demandais ses liens avec la scène musicale locale. Donc le discours, les musiciens n'ont pas de frontières, c'est aussi un discours que j'ai retrouvé chez d'autres artistes au Sénégal, notamment pour me parler de leurs revendications à s'exporter, à être des artistes qui voyagent, qui font connaître leur musique à l'étranger, et une façon pour eux de revendiquer une participation à la mondialisation par la circulation. Beck, et ce n'est pas une notion que je développe, mais c'est une notion dont je me demande si elle peut notamment s'appliquer à mon terrain, il parle de cosmopolitisme banal, et qui permet de relever chez Waterflow justement l'expression d'une expérience d'intégration dans des processus globaux, le sentiment de faire partie du monde, ce qui pour moi fait fortement écho à des auteurs comme Mitchell, qui donc a écrit que le hip-hop et le rap étaient devenus un véhicule pour les affiliations de la jeunesse globale et un global pour retravailler les identités locales. Et en effet, du fait de cette croyance en un mouvement global, il remet en cause l'existence qu'il peut y avoir d'une scène musicale locale en reliant cette définition locale comme une fermeture. Donc il me disait, par exemple, si tu es sénégalais, que tu essayes de faire du rap sénégalais, qui va parler que des problèmes du rap sénégalais, tu es en train de te fermer. Alors que le rap, dans son essence, c'est une culture universelle, peu importe qui tu es, tu peux faire du rap. Donc son expérience migratoire va aussi induire une différence de positionnement quant à l'existence de scène rap. C'est aussi une façon pour lui, quelque part, de se revendiquer comme pouvant toujours faire partie de cette scène, même en étant à l'étranger. Car en effet, il reprend aussi des référentiels qui vont faire sens dans le cadre de cette scène locale, comme la notion de voix des sans-voix. Et il me dira en fait que peu importe d'où il est, il peut continuer à parler des réalités africaines. Donc il me dira, on parle de la pauvreté africaine, des problèmes qui sont dans les sociétés africaines, je parle pour eux, je parle pour moi-même, je suis la même personne. Comme là où on vit, ça ne va pas enlever le fait d'où on provient et qui on est. On restera toujours qui on est et moi, je suis toujours la voix des sans-voix. Donc Waterflow parle de la fixité de l'origine, d'où on provient, qui pour lui détermine l'identité, qui on est. Il tire donc sa légitimité de parler de certains sujets, non pas de ses expériences actuelles, mais de son origine nationale, sociale, qui lui permettent, même géographiquement loin de son pays, de continuer d'incarner les aspirations de ceux pour lesquels il parle. Les revendications du quartier sont pourtant aujourd'hui remplacées par celles du Sénégal, si ce n'est de l'Afrique dans son ensemble. et de la manière que la migration devient une source d'opportunités pour se réinvestir chez soi par le développement d'activités transnationales, Waterflow, en tant que rappeur et en tant que migrant, investit aussi la scène locale sénégalaise avec l'argument suivant. Pour développer quelque chose, il faut se développer soi-même, donc le fait de changer de pays, ça a permis de faire évoluer notre musique. Donc cette aspiration a conduit le groupe à mettre en place un site internet, notamment avec l'argument que ça faciliterait au nouveau groupe à se faire connaître. Il lance aussi des initiatives comme Go Back, Give Back. Et toutes ces activités transnationales sont aussi une façon de tirer les leçons d'une certaine expérience de l'ailleurs pour en faire favoriser la scène rap locale. Wagyu Bleu sont aussi par ailleurs ceux qui sont en mission, comme il le répète dans la chanson African Dream, d'aider par les connaissances acquises ailleurs les personnes restées au Sénégal. Et I Witness Rap dans cette chanson, fallait partir laissant derrière les souvenirs, partir pour l'avenir pour mieux revenir. Donc pour conclure, les expériences migratoires des artistes peuvent modifier leur positionnement au sein de la scène rap locale, notamment par la mise en place d'activités à l'échelle transnationale, une échelle qui est le lieu de transfert de savoir-faire, de savoir-être, qui peuvent induire comme ici des discours cosmopolites, une volonté de changement, ou au contraire, comme on peut le voir dans d'autres cas, par effet de comparaison, peut mettre en place des dynamiques de différenciation, renforçant au contraire l'idée d'un local particulier. Donc il s'agit pour moi de voir comment des processus induits par la migration peuvent modifier, au contraire consolider l'idée d'une scène musicale locale. Et en tout cas, les témoignages tels que je les ai ici commencé à explorer, montre les capacités des artistes à résoudre quelquefois les paradoxes parfois latents entre occasion locale et expérience de l'ailleurs et suggère un point de vue transversal entre imaginaire migratoire et imaginaire du rap. Merci pour votre attention.